Et je suis en compagnie de M. Sébastien Saint-François. Salut Sébastien.
Hey, bonjour.
Ça va bien, enchanté de faire ta connaissance d'ailleurs.
Pareillement.
Tu voulais nous glisser un mot sur la société de transport collectif en
ben
début
oui,
de...
Ben oui, c'était pas dans mes sujets du jour, mais j'ai vu ça comme tout le monde ce matin dans la presse. Écoute, alors qu'il y a quelques semaines à peine, on nous annonce qu'on va nous augmenter nos immatriculations dans la région de la CMM, qui est 82 municipalités, qui est à peu près de la moitié de la population du Québec, pour amener ça à 150 $ par auto. Je trouve ça aberrant de lire ce que je lis ce matin, là, des parties, puis des bouteilles d'eau.
100 000 de bouteilles d'eau.
Écoute, ça n'a pas de bon sens. Puis je lisais, je pense, dans l'article, c'est la directrice générale de la STM. On est très conscient qu'on gère l'argent du public. Bien, c'est justement, j'en ai parlé avec Charles de cette nouvelle-là il y a quelques semaines, puis comme bien des gens, j'étais indigné, parce que je trouve qu'il y a du gaspillage, pas à peu près, puis ça, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a probablement plein d'affaires qu'on sait pas encore. Puis tu sais, chaque année, ces sociétés-là braillent, puis on a besoin d'argent, puis ils braillent à Québec, puis ils braillent tout, partout, sur toutes les tribunes, puis le déficit, puis nananana. Bien là, vous nous montrez que vous avez du ménage à faire. Tu sais, Legault, des fois, il est raide quand il dit aux villes, faites le ménage par chez vous, puis je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans, parce que oui, il y a du gaspillage un peu partout, oui, il y a du gaspillage dans les villes, puis oui, il y a du gaspillage dans les sociétés d'État et les sociétés de transport, et il y a du ménage à faire. Fait que j'espère que ça va réveiller quelques personnes, parce que la mesure n'est pas encore en vigueur, là, le 150 $, mais je trouve ça aberrant de voir des choses de même. Fait que on va voir la suite des choses, là, mais puis peut-être qu'on aura d'autres articles, parce que c'est peut-être du journalisme d'enquête en cours, puis il va y avoir une série d'articles, puis on va apprendre plein de belles choses sur nos RTL, STM et compagnie.
Entre autres, 10 000 $ pour des influenceurs.
Écoute, ça n'a pas de bon sens.
Pour une société de transport.
Votre job, là, c'est faire du transport collectif, c'est pas de faire des parties, puis en tout cas, moi je trouve ça absolument aberrant, puis c'est un exemple de plus qui alimente le cynisme des gens, puis en tout cas, ça changera, on dirait que ça changera jamais malgré tout ce qu'on essaie de faire, puis tout ce qu'on dénonce, puis en tout cas, c'est à suivre, mais ça regarde pas bien pour leur belle image.
Non, puis ça regarde pas bien non plus pour Trudeau dans Toronto-Saint-Paul.
Écoute, hein? Toronto-Saint-Paul, bon, les observateurs puis les sondeurs puis tout le monde s'attendait à une courte victoire libérale. Écoute, Toronto-Saint-Paul, je pense que c'est Michel Séauger qui disait ça cette semaine, ou en tout cas un commentateur sur RDI, disait que c'est l'équivalent de Westmount. C'est comme si les libéraux perdaient Westmount ici à Montréal.
Ce qui serait une tragédie.
Fait que c'est l'équivalent. Alors, ils ont perdu. Bon, la victoire des conservateurs, c'est quand même une courte victoire.
600 voix peut-être,
ouais,
quelque chose du genre.
Oui, 600 voix, mais c'est toute une claque. Hein. C'est toute une claque. Puis on a vu que les libéraux sont sonnés, malgré le discours de Mme Freeland qui disait non, il ne doit pas dire... Mme Freeland, d'ailleurs, son comté, c'est le comté voisin. Écoute, c'est annonciateur peut-être d'une débarque l'année prochaine, si Trudeau s'accroche. On en parlait hors d'ombre, j'en parle souvent avec Charles. On est rendu à la fin d'un cycle. Un gouvernement à Ottawa, c'est 8-9 ans. Rappelons-nous les années 2015. L'année 2015, c'était Harper. Tout le monde voulait se débarrasser de Harper. Le NPD montait. Hein, Thomas Mulcair était le chef du NPD. Là est arrivée l'histoire du NICAB qui a fait dérailler le NPD. Puis on s'est tourné vers Trudeau contre toute attente, qui était troisième, parce qu'on s'est dit... C'est lui notre cheval, c'est lui qui peut nous sortir Harper d'Ottawa. C'est ce qui est arrivé. Moi, j'ai jamais voté pour M. Trudeau. J'ai jamais vu en lui une personne ayant les compétences nécessaires pour occuper ce poste-là. Ses déficits chroniques m'horripilent depuis des années. On est rendu là. Là, on est tanné, pas juste moi, collectivement, on est tanné de Trudeau. Le message ne passe plus. Quand je l'entendais dire l'autre jour, il nous reste encore beaucoup de travail à faire. On n'en veut plus de ton travail. La population canadienne n'en veut plus. Monsieur Poilievre, je ne suis pas un fan de lui non plus. Son gros bon sens, puis qu'il va tout régler comme par magie, je ne crois aucunement à ça. Mais son message résonne auprès des gens. Il est à plus 20% dans les sondages depuis longtemps. C'est une tendance lourde. Et je ne sais pas ce qui va arriver parce que la fenêtre se rétrécit, là. Si Trudeau s'accroche, le problème, plusieurs commentateurs le disent, il n'y a pas de dauphin. Il n'y a personne disponible immédiatement pour dire « moi, je prends le flambeau, puis vous allez voir avec moi, on va remonter ». Il y a l'usure du pouvoir, donc les libéraux luttent contre ça, peu importe qui deviendrait chef si M. Trudeau quitte. Mais si M. Trudeau pense à son parti, là, puis veut quitter dans une simili-dignité, là, s'il s'accroche jusqu'à la fin, je pense que ça va être désastreux. J'ai hâte de voir le résultat électoral, mais sa fenêtre se rétrécit. Il faut qu'il prenne une décision dans les semaines à venir. parce qu'il faut donner le temps à ce moment-là à une nouvelle personne qui serait désignée chef de, et de facto premier ministre, aux premières ministres de préparer l'élection. Fait que j'ai hâte de voir. Chose certaine, c'est une méchante claque. Là. Peu importe le spin qu'ils essayent de mettre autour, tout le monde le sait, là, c'est une méchante débâcle. C'est comme je vous dis, c'est comme s'ils perdaient Westmount à Montréal.
Oui, puis quand on commence déjà à penser au fait qu'il n'y ait pas de dauphin qui suive, ça veut dire que la personne en place est peut-être déjà rendue...
Moi, j'écoute les commentateurs depuis mardi, là, puis ce que j'entends, là, c'est si j'étais Trudeau, là, je songerais sérieusement à dire, je pense que je vais passer le flambeau, parce qu'en tout cas, il va peut-être s'accrocher, mais moi, je pense que c'est terminé.
Mais à qui le passera-t-il? Là est la question.
Là est la question, mais ça, c'est une question de régie interne rendue là.
Oui, exact. Denis Coderre sera de la course à la chefferie du PLQ.
Oui. Donc, c'est fait, il a annoncé ça vendredi passé. Bon, c'est le seul candidat officiellement en lice jusqu'à maintenant. Écoute, j'écoutais son discours, c'est du Denis Coderre tout craché, mais est-ce que vraiment Denis Coderre peut incarner l'avenir du Parti libéral du Québec? Permettez-moi d'en douter.
Ou d'un parti tout court.
D'un parti tout court. C'est l'ancienne façon de faire de la politique. Il parlait de faire des soupers spaghettis dans 125 comtés. Vous allez me voir partout. Écoute, il est sympathique, là, mais je trouve que je vais utiliser le mot pathétique dans le sens qu'on dirait que c'est un gars qui sait pas quoi faire de lui.
Il se garoche,
il a besoin des caméras sur lui. Il voit une possibilité qui se présente au PLQ. OK, je vais saisir cette possibilité-là. J'espère en tout cas que ça va bien se dérouler pour lui parce que ça me surprend. On va voir là, qui va entrer dans la mêlée. Bon, on parle de Charles Milliard qui a quitté son poste et on le voit aller dans la course, on le voit se lancer dans la course. Ça, pour le PLQ, là, je m'excuse, mais ça va prendre... Oui, Denis Coderre, oui, il y a des contacts, oui, il y a des messages qui choquent puis tout ça, mais le PLQ a besoin d'un chef plus jeune qui représente la jeune génération et qui va être capable de faire tout un travail de reconstruction, notamment dans les régions. Tu sais, quand j'entends Denis Coderre dire « je vais me présenter dans Bellechasse », j'écoutais les gens de Bellechasse interviewer à la télé, ils n'en veulent pas de Denis Coderre qui reste à Montréal, là. En tout cas, je sais pas le pari qu'il fait, mais je trouve ça désolant. Si vraiment il prend une méchante débarque, écoute, après avoir perdu la mairie deux fois, la course à la mairie, contre Valérie Plante. Là, s'il perd cette course-là, je veux dire, c'est un petit peu triste pour lui, là, tu sais.
Oui, puis le défi d'aller rejoindre la jeunesse dont je pense faire partie un peu, c'est
pas Denis Coderre.
C'est pas Denis Coderre.
C'est pas Denis Coderre qui va aller.
On s'identifie pas à lui, là.
Pas en tout. Écoute, il a fait de la politique longtemps, il a fait de la politique comme on faisait à l'époque, mais ça résonne plus, son message ne résonnera pas auprès des jeunes, je crains. Et en tout cas, ça c'est à suivre, il est dans la course, c'est son droit, il est membre en règle, hein, rappelons-nous, quand il est allé chercher sa carte de membre, il a réussi à avoir une meute de journalistes qui ont suivi ça. T'sais, il y a quand même de l'attraction médiatique, t'sais, il attire les médias parce qu'on sait toujours que c'est coloré. Puis,
oui, il y a une prestance publique puis un discours coloré.
Mais est-ce que c'est ça dont le PLQ a besoin pour espérer un jour reformer le gouvernement? Ça me surprendrait.
Peut-être pas.
Je pense pas.
Premier débat présidentiel sur les ondes de CNN ce soir.
Écoute, je lisais ça, dans la presse plutôt cette semaine, le test cognitif d'Atlanta, le titre de l'article de Richard Etu. Donc, vraiment, ça va être un débat malgré les candidats. Hein, les deux candidats qui sont un octogénaire et un presque octogénaire. Ça va être intéressant à écouter. C'est sûr, je vais écouter ça moi aussi. Voir qui... Parce que les défis sont énormes. Hein. Trump... Bon, on connaît Trump. Il doit essayer d'être le plus présidentiel possible puis pas trop déraper. Quoique le format du débat va aider parce qu'il n'y aura pas de téléspectateurs. Les micros sont coupés à moi. Quand c'est pas ton droit de parole, ton micro est coupé.
Ah, ils peuvent pas s'interrompre.
Ils peuvent pas s'interrompre. On va voir. Mais Biden, il y a tout un défi aussi parce qu'il faut qu'il aille l'air sharp. Là, c'est rendu que Trump accuse l'autre parti de droguer Biden pour qu'il soit alerte quand il fait des discours. Alors, il voulait faire passer un test antidrogue. Ça dérape de partout, cette histoire, cette campagne-là.
Ben, depuis les débuts de Trump en politique,
là, on est vraiment dans autre chose, parce que là, on est vraiment dans l'âgisme de part et d'autre. Trump aussi, il bafouille, hein. Des fois, on disait qu'il confond Joe Biden, Barack Obama, Nikki Haley, Nancy Pelosi. Lui aussi, il dit des niaiseries. L'autre fois, il sortait une affaire sur, je crois, des requins. Il donnait un discours partisan, puis il parlait des requins, puis des batteries, puis des autos électriques, puis ça n'avait aucun sens. Fait que ça va être très, très, très intéressant de suivre ce débat-là ce soir puis de voir comment les deux vont se débrouiller. Puis faut se rappeler, là, un des deux va être le prochain président des États-Unis pour un mandat de 4 ans.
78 ans, 81 ans.
81 ans. Et si mettons que M. Biden est réélu, mais ne se rend pas à la fin de son deuxième mandat, parce qu'il aurait en théorie 86 ans, pour X, Y, Z raison, de facto, c'est colistière qui est élue, donc première femme présidente des États-Unis.
Hein? Dans tous les cas, ça risque d'être historique, historique. Comme campagne.
On ne connaît pas encore le colistier ou colistière de Trump, mais du côté de M. Biden, on sait que c'est la vice-présidente actuelle. Donc, je trouve que ce pays-là est dans une très drôle, très délicate situation en ce moment. Et en tout cas, le débat de ce soir va lancer... C'est historique hein, qu'on ait un débat présidentiel si tôt dans le cycle électoral. Il reste encore 4 mois avant l'élection. Donc, Biden joue gros. Là. Biden joue vraiment son image et ce soir, il y a beaucoup de pression sur lui. Trump, de ce qu'on peut lire, ne se prépare pas vraiment.
Lui, il a de l'air au-dessus de ses affaires.
Il est au-dessus de ses affaires, continue de ses discours partisans, puis il n'a pas de temps à perdre à se préparer. Fait que ça va être fascinant de regarder ça aller ce soir, puis j'ai bien hâte.
Ça risque d'être une campagne très colorée, en effet.
Ouais.
Abandon du projet de péage urbain à New York.
Ben oui, on parle souvent de péage, hein, puis même ici à Montréal, on parle de mettre des péages, puis des péages, puis des péages. Donc, il y avait un projet à New York, la ville de New York, pour financer notamment l'amélioration de transport en commun. Tout ça, j'étais allé à New York au mois de mai. Il y en a déjà des péages. Hein. Notamment, ça coûte près de 18 $ américains traverser le tunnel Lincoln entre le New Jersey pour te rendre à Manhattan chaque fois que tu passes. Fait que j'ai passé 2 fois, ça m'a coûté 2 fois 18 $.
36 $ américains?
Yes, sir.
Donc là, 50 Canadiens.
Là, écoute, ça va vite. Oui, à 37 % de change. Donc, on voulait mettre en place une taxe de 15 $, je pense, pour accéder au territoire de Manhattan. Et ouais, c'est ça, pour entrer à Manhattan, de 15 à 36 $.
Ça, peu importe d'où on arrive?
Oui, je crois que c'était aussitôt que tu convergeais sur Manhattan. Écoute, ils ont installé, je lis le chiffre ici, 110 portiques, donc des caméras qui devaient servir à ça. Ça a coûté 427 millions de $, cette installation-là. Ça ne servira à rien jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est la gouverneure démocrate de l'État qui a scrappé le projet. Donc, l'opposition l'accuse d'une décision électoraliste. Puis ça a l'air que ça viendrait de Washington, parce que Washington, ils ont perdu des sièges à la Chambre des représentants aux dernières élections. Et le président de chef des démocrates à la Chambre, donc, voudrait absolument regagner des sièges pour former la majorité lors de la prochaine élection de mi-mandat. Donc, ça a l'air que ce serait pour des pressions...
Politique
qu'on aurait forcé la gouverneure à abandonner son plan.
À gaspiller plus de 400 millions de $.
Oui, puis à priver la ville de revenus de péage. Donc, on voit que c'est pas simple. Fait que quand j'entends les gens, les bons, nous parler de mettre des péages ici sur nos ponts pour financer nos belles sociétés de transport déficitaires,
ouais,
je pense que c'est loin d'être fait. Écoute, le péage, c'est bien beau, mais je pense que c'est pas la solution à tout. Puis on le voit bien, là, il y a des pressions qui peuvent s'exercer en coulisses. Donc, pour l'instant, le projet est mis de côté. Est-ce que ça va revenir un jour? On sait qu'il y a plusieurs grandes villes dans le monde, dont Londres, Stockholm, etc., qui ont instauré des péages. Et aujourd'hui, ça fait partie de la réalité. Puis ça, les gens se sont habitués.
C'est ça, les gens s'habituent, puis ça fait partie de la vie.
Ouais, mais on voit qu'ici, on trouve que c'est pas le cas, puis c'est ça. Ça suit. Fait que, tu sais, on voit que le péage puis les taxes, c'est pas toujours la meilleure solution. Les gens en payent déjà beaucoup, puis... On est tanné de payer des fois.
Oui, effectivement. Merci beaucoup, Sébastien,
d'avoir été là. Salut.